243.
Alors Éliashib, le grand sacrificateur, et ses frères les sacrificateurs se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et en posèrent les battants. Et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananiel. Et à côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux bâtit Zaccur, fils d'Imri. Et les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Et à côté d'eux répara Miramoth, fils d'Uri, fils d'Akot. Et à côté d'eux répara Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. Et à côté d'eux répara Tsadok, fils de Baana. et à côté d'eux réparèrent les Tekoïtes. Mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur Seigneur. Et Jehuada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants et les verrous et les barres. Et à côté d'eux réparèrent Melatia, le Gabaonite, et Jadon, le Méronotite, les hommes de Gabaon et de Mitzpa, vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. Et à côté d'eux répara Uziel, fils de Haraya, l'un des orfèvres, et à côté de lui répara Anania, d'entre les parfumeurs. Et ils laissèrent Jérusalem en son état jusqu'à la muraille large. Et à côté d'eux répara Réphaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté d'eux répara Jedaïa, fils de Harumaph, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de lui répara Hattush, fils de Hashabnia. Malkija, fils de Harim, et Hashub, fils de Pakat Moab, réparèrent une seconde portion et la tour des fours. Et à côté d'eux réparèrent Shalom, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. Hanan et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et posèrent ses battants, ses verrous et ses barres, et firent 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Et Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Et Shalin, fils de Colosé, chef du district de Mitzpa, répara la porte de la fontaine. Il la bâtit et la couvrit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Il fit aussi la muraille de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, et jusqu'au degré qui descend de la ville de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, répara jusque vis-à-vis des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été fait, et jusqu'à la maison des hommes forts. Et après lui, réparèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui, Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla, répara pour son district. Après lui réparèrent leurs frères, Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Jeshua, chef de Mitzpa, répara une seconde portion, vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec zèle une autre portion, depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Éliashib, le grand sacrificateur. Après lui, Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion, depuis l'entrée de la maison d'Éliashib jusqu'au bout de la maison d'Éliashib. Et après lui réparèrent les sacrificateurs, hommes de la plaine du Jourdain. Après eux, Benjamin et Hashub réparèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseya, fils d'Anania, répara à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Hénadad, répara une seconde portion, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, répara vis-à-vis de l'angle et de la haute tour saillante de la maison du roi qui touche à la cour de la prison. Après lui, répara Pédaïa, fils de Paroche. Or les Nétiniens demeuraient en Ophel, jusque vis-à-vis de la porte des eaux au levant et de la tour saillante. Après lui, les Tekoïtes réparèrent une seconde portion, vis-à-vis de la grande tour saillante et jusqu'au mur d'Ophel. Les sacrificateurs réparèrent au-dessus de la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, répara vis-à-vis de sa maison. Et après lui, répara Shemaya, fils de Shekania, gardien de la porte du levant. Après lui, Anania, fils de Shelemia, et Hanan, sixième fils de Tsalaf, réparèrent une seconde portion. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, répara vis-à-vis de sa demeure. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des commerçants, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la montée du coin. Et entre la montée du coin et la porte des brebis, réparèrent les orfèvres et les commerçants.
Cher ami, avant d'entrer dans les détails que nous avons lus, j'aimerais bien encore quelque chose concernant une question qui a été posée. Nous avons parlé de la muraille et nous avons dit que la muraille était là pour protéger et pour faire la séparation entre ce qui plaît au Seigneur et de ce qui n'est pas compatible avec les droits du Seigneur. Et ça, c'est bien vrai. Et nous avons vu aussi que c'était la séparation entre ce qui est bon et ce qui est mal. Et j'aimerais bien ajouter encore quelque chose. La muraille semble être aussi une image du maintien de la vérité de la parole. Le maintien de la vérité de la parole, parce que c'est là où nous trouvons vraiment ce qui plaît au Seigneur et ce qui ne peut pas lui plaire. Parce que ce qui n'est pas compatible avec les droits du Seigneur, où est-ce que nous savons cela? D'où est-ce que nous savons cela? C'est par la parole et par aussi la doctrine de Christ. C'est par la parole, la doctrine, la vérité. C'est là où nous trouvons les vrais points de touche. Et c'est pour cela que j'aimerais bien ajouter encore cela, parce qu'il s'agit vraiment de maintenir la parole, maintenir l'influence de la parole, maintenir vraiment ce que la parole nous dit comme vraiment sérieux. La parole, ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça. Vous me comprenez peut-être quand je dis ça. Nous lisons la parole. Et nous lisons la parole, bien sûr, le matin on lit, le soir on lit. Lisons la parole aussi profondément, c'est-à-dire avec un cœur qui écoute. C'est ce que Salomon avait dit dans sa première prière quand il est devenu roi, quand il a vu qu'il était, il a dit qu'il était un petit homme, un petit garçon, comme je crois il dit, oui. Comment est-ce que c'est dit exactement? Un jeune garçon. Je suis un jeune garçon. Et donne-moi un cœur qui écoute. C'est avec un cœur qui écoute que nous devons lire la parole pour comprendre ce qui plaît au Seigneur et ce qui ne lui plaît pas. Ce qui est compatible avec lui et ce qui n'est pas compatible avec ça. Nous avons aussi parlé un peu déjà des choses qui peuvent entrer par les portes et qui ne doivent pas entrer par les portes. Et ce ne sont pas seulement des personnes dont on dit non, alors ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la carte d'identité de la ville. Vous me comprenez quand je dis ça? Ils n'appartiennent pas à la ville. Attention, non, ils ne peuvent pas entrer. Ça, c'est le soin nécessaire. Mais il y a aussi un soin nécessaire quant à toute autre chose qui peut entrer, des tendances, des idées, peut-être même des philosophies, toutes sortes de choses qui peuvent influencer et qui viennent du monde, qui ne vient pas de la parole, qui ne viennent pas du Seigneur Jésus. Et quand nous avons chanté un cantique, un cantique où nous avons parlé de ce chemin de lumière. Le chemin de lumière, c'est le chemin où la parole nous parle, où le Seigneur nous parle, où nous sommes en contact avec lui, où il y a la communion avec lui qui nous dirige, où il peut vraiment parler à notre cœur et à notre conscience. Voilà ce qui est important pour chacun de nous, que ce soit moi ou toi personnellement, parce que dans mon cœur peuvent aussi entrer des choses qui sont nuisibles, qui sont néfastes et qui se propagent peut-être. Attention également pour nos familles et avoir également vraiment attention à ce qui peut entrer dans le cadre du rassemblement de l'Assemblée et de l'Assemblée locale. Pour l'Assemblée locale, nous avons une responsabilité. Et je parle maintenant non seulement aux frères, non seulement aux âgés, mais à nous tous. Nous avons tous une responsabilité à tenir ferme la parole et à ne pas permettre que quelque chose de néfaste, quelque chose de nuisible entre par une porte malheureusement ouverte.
Si je peux juste ajouter quelque chose dans le même sens, dans la même direction de ce que Rainer vient de préciser, on peut partir d'une maison individuelle et élargir à la ville pour illustrer, pour comprendre mieux ce que c'est que cette muraille. Une maison, c'est une protection. Un toit, des murs, des fenêtres pour avoir de la lumière, des portes pour entrer et sortir. Et selon l'activité qu'on a, on aura les fenêtres ouvertes, ou les fenêtres fermées, les portes ouvertes, ou les portes fermées. Si je prends une situation un peu plus... d'un autre angle, ça peut être un appartement dans un immeuble. Et là, on voit bien que c'est un peu différent de la maison. La maison, il peut y avoir des espaces autour. L'appartement dans l'immeuble, il y a le palier, il y a tout de suite le voisin. Qui est-il le voisin? Est-ce un frère, une sœur en Christ? Est-ce quelqu'un, est-ce le monde? La porte palière va être différente de la porte de la maison qui donne sur le jardin. On va la fermer beaucoup plus facilement, on ne l'aura pas tellement souvent grande ouverte. On ferme à clé ou pas, selon comment on est tranquille ou inquiet, de tempérament, mais elle sera bien plus souvent fermée et avec le verrou fermé. Et puis si on étend ça à la ville, ben on a l'ensemble des maisons avec cette muraille autour. Et là, la parole évoque à plusieurs reprises deux types de villes, des villes ouvertes et des villes qui ont des hautes murailles. Il y a un passage en particulier qui est intéressant à Zacharie, au chapitre 2, si je ne me trompe pas, où il est parlé de Jérusalem. Oui, c'est ça, Zacharie chapitre 2, verset 4. Verset 4, oui, c'est ça. Cours parle à ce jeune homme, disant « Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes, à cause de la multitude des hommes et du bétail qui seront au milieu d'elle. » C'est une promesse future. Jérusalem, une Jérusalem totalement différente que ce que nous voyons là dans Néhémie. Une ville ouverte. Qu'importe qu'il y ait des murailles ou non, les portes sont ouvertes, la ville est ouverte. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est à l'extérieur est paix, et il n'y a pas de crainte, de sujet de crainte. C'est prophétique, c'est futur, le règne millénaire, où le Messie règnera, où il y aura le mal sera bridé, plus besoin d'avoir des murailles, plus besoin de fermer les portes. Et de ce point de vue-là, sans vouloir dire quelque chose de très rigide, il faut le garder comme quelque chose d'un peu souple. La première fonction de la muraille, c'est quand même d'abord la protection. Le contraste entre haute muraille et ville ouverte le montre bien. Et si on regarde dans l'histoire, au Moyen-Âge, en plaine d'Alsace, sur les collines, il y a beaucoup de châteaux. Mais c'était quoi ces châteaux? C'était le lieu de protection pour les villages qui étaient en dessous, qui n'avaient pas de muraille. Un ennemi... Une menace se profilait à l'horizon, ben les villageois allaient se réfugier dans le château, parce que justement, ils n'étaient pas protégés dans le village. Ce n'est que les plus gros villages qui pouvaient avoir des murailles, parce qu'il fallait aussi des gens pour les défendre. Donc le premier niveau, c'est quand même le niveau de la protection. La protection contre l'ennemi sous toutes ses formes. Et puis, l'autre niveau, on en a peu parlé ce matin, c'est ce côté de l'enceinte qui réunit. Tous ceux qui sont à l'intérieur sont, si je peux dire, du même camp, du même bord, sont ensemble, sont liés, sont solidaires. Et puis, bien sûr, il y a le côté que Rainer vient plus d'aborder, du côté de la séparation. Mais il me semble qu'il y a quand même une hiérarchie à voir dans l'image pour ne pas exagérer une application par rapport à l'autre. Alors, un dernier point que je voudrais aussi illustrer, les portes ouvertes, les portes fermées. Je reviens sur la maison. Le Seigneur dit, encourage à aller dans sa chambre, fermer la porte pour prier son Père dans le secret. Entrer dans sa chambre, fermer la porte. Voilà une activité, venir, se mettre à genoux devant Dieu, qui demande un isolement de toute l'agitation, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est agitation de la vie autour. On ferme la porte pour être dans le secret, pour avoir ce temps de silence. Et ça rejoint un petit peu ce côté, cette place de la parole aussi. On a besoin de fermer la porte, de fermer toutes sortes de portes pour pouvoir s'arrêter, s'attacher à la parole, pour pouvoir l'écouter, la parole, nous parler. Mur, porte, pour s'isoler. Et puis il y a un autre temps où cette porte doit être ouverte pour que la parole puisse sortir, parler, courir, interpeller. C'est la parole sous un tout autre angle. C'est l'évangile prêché en particulier, c'est notre vie qui témoigne, qui est l'évangile vécu, et qui se fait hors de cette muraille, dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, tout en n'étant pas du monde. Et là, la muraille est en quelque sorte derrière nous. Nous sommes hors de la ville, pour parler. Voilà, quelques remarques que je voulais faire par rapport à ce côté-là.
On voit dans ce chapitre que la muraille est un travail collectif et qui met en valeur la responsabilité de chacun. Chacun à sa place pour faire ce que le Seigneur, ce que l'Éternel lui mettait à cœur de faire. Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement pour nous aussi dans le rassemblement ? Le rassemblement, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas l'affaire des quelques frères qui sont autour de la table. C'est l'affaire de tous. Et combien il est important, même un jeune frère, une jeune sœur, qu'elle apprenne à prendre sa place, pas seulement pour rompre le pain, mais comprendre que, étant dans le rassemblement, eh bien, Dieu désire lui confier aussi quelque chose à faire, à sa place. C'est donc lié à la responsabilité. Nous avons dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 25 de l'Exode, pardon. Nous avons quelque chose aussi qui ressemble à ça pour le tabernacle. Oui, c'est le chapitre 25. Vous avez la construction du tabernacle. Ça commence par quoi ? Ça commence par chacun qui apporte. Pour Dieu, ça aurait été facile de faire comme la manne, qu'un bon matin, il y a un tabernacle qui tombe du ciel et qui aurait été parfait. Non, Dieu demande à chacun, selon l'esprit libéral qu'il avait, d'apporter du bleu, de la pourpre, de toutes sortes de choses. Donc c'est bien la responsabilité de chacun. Le rassemblement, ça ne marche pas tout seul. Et que chaque frère et que chaque sœur se disent bien cela. Ce n'est pas, je ne suis pas un consommateur de l'assemblée où je viens en disant, oh, bon, il y aura bien quelqu'un, ça va bien se passer, de toute façon, il y a 5-6 frères qui sont là et puis qui s'occupent de la... Non, ne raisonnons pas comme ça. Rendons-nous compte que nous avons notre place dans le rassemblement et que la santé de l'ensemble du rassemblement, dépendra de la responsabilité de chacun, de l'exercice de chacun à remplir la place que le Seigneur lui confie. Si je suis dans le rassemblement, je me souviens souvent raconter cette histoire, c'était un jour de mariage, plusieurs ont connu encore Paul Finet qui avait donné cette parole qui m'est restée, qui me restera jusqu'à mon dernier jour. Il disait aux jeunes mariés, on peut vivre de l'Assemblée ou on peut vivre pour l'Assemblée. Il n'y a qu'un seul petit mot qui change. Je vis de l'Assemblée, je viens en réunion comme un consommateur ou bien je vis pour l'Assemblée en réalisant que j'ai une place que le Seigneur m'a départie et j'ai à être exercé pour remplir le service et la place que le Seigneur me confie.
Pour ajouter un passage à ce qui vient d'être dit, on peut lire dans Exode 35 aussi. C'était pour apporter aussi des offrandes pour l'Éternel. Déjà, donc Exode 35, déjà verset 5, « Tout homme qui a un esprit libéral. » Verset 10, « Et tous les hommes intelligents, la note nous dit, sages de cœur. » Et puis on continue au verset 21, « Tout homme que son cœur y porta, et tous ceux qui avaient un esprit libéral. » Verset 22, « Et les hommes vinrent avec les femmes. » Verset 25, « Et toute femme intelligente, ou donc sage de cœur, fila de sa main et apporta ce qu'elle avait filé. Les femmes habiles que leur cœur y porta. » Et puis on peut voir plus loin dans tout ce chapitre. Au verset 34, il est parlé de Oholiab. Il a mis au cœur d'enseigner. Et le chapitre 36 continue ainsi. Fin du verset 22, « Tous ceux que leur cœur porta. » Et on voit donc ainsi que c'est pour chacun, pour les hommes, pour les frères âgés, mais les frères plus jeunes aussi, pour les sœurs aussi, chacun dans le rôle que Dieu leur a donné. Et combien on est loin de ce que nous lisons quelques versets plus bas. Chapitre 36, verset 5. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'œuvre que l'Éternel a commandé de faire. Que cela puisse travailler nos cœurs, pour que nous puissions, avec plus de zèle, avec plus d'énergie ainsi, travailler pour le Seigneur et pour l'Assemblée, avec notre cœur.
Juste ceci, je pense à certains jeunes frères que on n'entend jamais à la réunion, juste cette application que je voudrais faire, et me dit « Le Seigneur ne m'a rien donné ». Bien sûr, si j'ai les deux mains dans les poches et que quelqu'un veut me donner quelque chose, je suis raide comme ça, je ne recevrai rien. Est-ce que je suis prêt à tendre la main? Est-ce que je suis disponible entre les mains du Seigneur? Est-ce que je suis disposé dans mon cœur pour être de la part du Seigneur une bénédiction pour les siens? Oui, le Seigneur ne m'a rien donné, mais je ne lui ai rien demandé non plus. J'ai peut-être été raide en disant « ça, c'est l'affaire des autres ». C'est très pratique cela, mais quelquefois, c'est vrai, on est peiné, on se dit pourquoi est-ce que l'action dans le rassemblement repose toujours sur les mêmes? Alors on dit, on n'a pas de clergé, excusez-moi, on n'a pas de clergé organisé, mais on a un clergé de fait souvent. Je crois qu'il faut se parler la vérité. Comment ça se fait que dans un rassemblement, soit deux, trois frères qui fassent tout le service? Dire, mais moi, je ne suis pas doué. Attendez, ce n'est pas une question de don quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'exprimer la louange au Seigneur. Ce n'est pas du tout une question de don. Ce n'est pas une question de don. Le don, c'est très limité. C'est limité éventuellement à présenter la parole. Et encore, il est parlé des anciens. Il n'est pas dit qu'ils avaient des dons. Il fallait qu'ils puissent donner un saint enseignement. Donc, arrêtons de catégoriser les frères en pensant que c'est eux, ils peuvent et les autres ne peuvent pas. C'est quelque chose qui est étranger à l'Écriture. Là, nous voyons que c'est du collectif. Et Dieu se plaît avec tout le chapitre qu'on a lu pour énumérer en donnant le nom de chacun, en donnant le nom des uns et des autres et en se plaisant à dire ce qu'ils ont fait. On a souvent fait aussi un parallèle avec ce que nous trouvons dans le chapitre 16 des Romains, n'est-ce pas, où l'apôtre Paul va parler de Persis, la bien-aimée, de ceux qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et on sent avec quelle sollicitude et quelle joie l'apôtre Paul ouvre son cœur pour parler de ceux qui avaient ainsi à cœur les intérêts du Seigneur.
Encore un mot sur le fait, on a beaucoup parlé des réunions d'assemblée, et c'est juste. On se rappellera aussi que l'assemblée, ce n'est pas, nous ne sommes pas dans l'assemblée le dimanche seulement, ou pour les réunions, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Donc c'est l'exercice, effectivement, dans les réunions, mais c'est beaucoup plus que cela. Et puis c'est aussi la vie pratique, d'une certaine manière. On n'a peut-être pas, on s'est peut-être pas arrêté sur ce qui était dit au premier chapitre, j'y reviens pas trop, mais simplement, ils étaient dans une grande misère et dans l'opprobre. Grande misère, c'est le côté intérieur, l'opprobre, c'est plutôt ce qui est perçu peut-être de l'extérieur. Ce qui est perçu, c'est peut-être quelque chose qui, dans notre vie pratique, qui ne correspond pas à ce que nous professons. Ça nous interroge tous. Comment mettons-nous en pratique? Comment vivons-nous la semaine, dans toutes les situations de notre vie? Comment vivons-nous ce que nous professons? Ce Seigneur à qui nous disons que nous sommes soumis parce que nous l'appelons Seigneur. Comment a-t-il sa place de Seigneur? Et alors, on voit que Néhémie a fait ce constat qu'il a partagé, et puis dans ce même constat qu'il a présenté à ceux qu'il visitait, il n'en est pas resté seulement au constat, il leur a dit « Venez et bâtissons, levons-nous et bâtissons ». Chacun a sa place, chacun a sa tâche, et on va voir effectivement des familles, on va voir un père et ses filles, on va voir des personnes qui vont travailler vis-à-vis de leur maison, devant leur maison. Donc il y a tout ce travail intérieur dans nos cœurs, dans nos maisons, de mettre en pratique ce que nous trouvons dans la parole, bien sûr, pour, ça me fait penser à ce passage cité récemment, les esclaves pouvaient orner l'enseignement de leur Seigneur par leur pratique, par leur vie pratique. C'est l'épître à Timothée. Bien qu'on soit encouragé aussi à orner, à mettre en pratique, à montrer de manière pratique ce que le Seigneur nous a donné dans son enseignement.
Je voudrais lire un passage de l'évangile de Marc, chapitre 13. Verset 34. C'est le Seigneur qui parle. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. C'est comme un homme allant hors du pays. Le Seigneur est ressuscité, il est dans le ciel, il attend pour revenir chercher son Église. Il est parti hors du pays. Et nous voyons que le Seigneur, il a laissé sa maison. Et il a donné de l'autorité à ses esclaves, une responsabilité, un travail à chacun, et à chacun son ouvrage. Cet ouvrage, c'est construire, c'est édifier. C'est pas démolir, c'est édifier, édifier dans l'assemblée. Et aussi, il nous est dit, il commanda au portier de veiller. Donc, nous avons tous la responsabilité, puisque nous sommes sa maison, de veiller. Le portier doit veiller, veiller aux portes. Et il nous est dit donc de veiller chacun, car nous ne savons pas quand le maître de la maison va venir. Il va venir peut-être ce soir, ou à minuit, au chant du coq, ou au matin. De peur qu'arrivant, tout à coup, il nous trouve dormants. Est-ce que nous sommes des ouvriers actifs, ou est-ce que nous sommes des ouvriers qui dorment ?
Si on regarde ce que nous trouvons ici dans le chapitre 3 dans Néhémie, on voit alors que l'Esprit Saint par Néhémie décrit comment les familles, les personnes ont rebâti, reparé, premièrement, la muraille. On a parlé sur les trois significations de cette muraille. On va revenir sur cela. Ils ont bâti et réparé aussi les portes. On trouve 10 dans notre chapitre. Il est intéressant que dans le chapitre 12, nous trouvons encore 2 autres, juste pour les mentionner. Aussi dans le chapitre 8, un de ces 2 est mentionné, chapitre 12, verset 39. Néhémie parle d'un cœur, c'est une situation très heureuse, et ils ont allé au-dessus de la porte d'Éphraïm, c'est une osième, et près de la porte du vieux mur, et de la porte des poissons, et de la tour de Hananéel, et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et alors la 12e, et ils s'arrêtèrent à la porte de la prison. 12 portes, intéressamment, comme dans Apocalypse 21, nous avons aussi pour l'assemblée 12 portes. Je crois en fait, ça parle de l'administration dans l'assemblée et d'une administration parfaite en fait, qui n'est pas comme cela, comme nous avons vu déjà aujourd'hui. Mais dans notre chapitre, il n'y a que 10 portes. Et le nombre de 10 parle de la responsabilité. C'est ce que nous avons entendu maintenant aussi au début de cet après-midi, la responsabilité de nous tous. Les portes, les 10 portes, elles parlent, il me semble, des traits de l'Assemblée aujourd'hui et de notre responsabilité de pratiquer ces 10 caractères de l'Assemblée que Dieu, par ses portes, par ses images, nous donne pour la vie de l'Assemblée. Il faut bâtir, et nous voyons que, comme nous avons entendu, il y a des personnes, il y a des familles qui bâtissent ces choses. Et si on compare les versets, on peut voir qu'il y a ceux qui ont travaillé fidèlement, soigneusement, complètement, en comparaison avec d'autres, et c'est triste que le chapitre commence par le manquement, et même de celui qui était le grand sacrificateur, en comparaison, on trouve ceux qui ne bâtissent pas complètement et fidèlement. C'est, on peut voir par comparaison. Par d'autres versets qui parlent de ces personnes, de ces familles, on peut voir la raison pour laquelle quelques-uns n'ont pas bâti vraiment d'après les pensées de Dieu. Et comme nous avons vu, pratiquer l'assemblée, bâtir les murailles, c'est une responsabilité collective et en même temps, c'est une responsabilité personnelle. Et si moi, je ne bâtis pas fidèlement, avec zèle, la structure, pour ainsi dire, de cette muraille a des défaillances, des manquements. Alors, on peut céder l'un à l'autre, et me semble, on voit cela aussi dans ce chapitre, parce qu'il y a des personnes qu'on voit dans deux parties de cette muraille. Et ça peut être comme une sorte d'aide, pas seulement dans un côté, mais aussi ils ont travaillé dans un autre côté pour aider où il y a peut-être un manquement. Mais quand même, si moi, je ne bâtis pas d'après les pensées de Dieu, ça donne un manquement pour nous tous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur compte sur nous tous, chacun de nous. Elle est bien importante, mais aussi il faut encourager les uns les autres de bâtir, d'aider. Nous avons besoin, nous tous, moi j'en ai besoin de toi et vice-versa. Ça veut dire que c'est vraiment un encouragement, ce chapitre, que le Seigneur il voit toutes les personnes, les frères, les sœurs, les familles aussi, une certaine importance dans ce chapitre que nous avons besoin, nous tous. Alors, je dis seulement, encore seulement, quelque chose sur la première porte. Je ne dis rien sur Eliashib encore, mais ils ont bâti Eliashib avec ses frères, les sacrificateurs, et se levèrent, c'est bien. Il faut se lever, il faut être actif. C'est un encouragement, c'est un bel exemple. Ils ont bâti. Probablement, cette porte n'existe plus. Ils ont bâti, ce n'est pas réparation. Ils ont bâti la porte des brebis. Il me semble que le premier caractère, trait de l'assemblée, que c'est un lieu où Dieu est adoré. Ce n'est pas le seul trait, certainement pas. Il y a 9 autres, ou même 11. Mais comme souvent, l'Écriture commence par la pensée qui est le plus précieux pour Dieu. Et l'assemblée est pour Dieu. Et Dieu veut être adoré dans son assemblée. Et c'est vraiment, l'assemblée est un lieu d'adoration pour Dieu. Et pour adorer, il fallait dans ce temps-là les brebis, les animaux. Et pour les laisser entrer, il avait cette porte. Et comme nous avons entendu par notre frère Jacques, on peut voir vraiment avec cette porte les trois pensées: protection, l'unité, ça veut dire ce lieu de l'unité, d'être ensemble comme assemblée, et disons assemblée dans le sens de la Bible et toujours tous les croyants, le caractère de l'assemblée. Et troisièmement, séparation. Si on regarde Esdras 3, on lit dans le verset 2 où ils ont bâti l'autel. Il est dit, Esdras 3, verset 2, « Et Yeshua, fils de Josadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse comme homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. » Alors, l'autel, c'est où on a mis ces brebis, ces animaux. Et c'était l'autel du Dieu d'Israël. ce n'était pas l'autel de ce résidu ou de Judas, c'est Israël. Ça nous montre vraiment que l'unité, ce n'est pas une unité de quelques personnes ou quoi, c'est l'unité de toute l'assemblée qui doit être exprimée dans cette ville, dans l'assemblée, dans Jérusalem. Deuxièmement, ils ont eu peur, terreur des peuples, et à cause de cela, ils ont bâti l'autel. Ça nous montre que l'autel, ça veut dire l'adoration, est vraiment une protection pour les croyants. Si nous avons à cœur d'adorer Dieu, d'après la parole certainement, c'est comme une sécurité de ne pas laisser entrer les ennemis, mais d'être pour Dieu. Et en même temps, certainement, on ne peut pas adorer Dieu avec des personnes comme nous avons déjà trouvé dans le chapitre 2, des personnes comme Sanballat et Tobija, et quand on le voit aussi dans le livre d'Esdras. C'est une chose vraiment pour l'assemblée, pour ceux qui sont des vrais croyants. Alors c'est la séparation du monde. La première porte, et certainement on peut avoir d'autres pensées, mais je trouve dans la ligne de ces dix portes, on voit le premier trait, c'est l'assemblée, c'est un lieu d'adoration pour Dieu. Et directement après, c'est la porte des poissons. Et ça nous montre qu'il y a aussi, que Dieu aime, qu'il y a d'autres qui viennent pour être ajoutés, pour être des adorateurs. Mais la porte qui est mentionnée, la première, c'est cette porte des brebis, quelque chose qui est si précieux pour le cœur de Dieu, et n'est-ce pas aussi pour nos cœurs.
Regardons la situation dans laquelle était ce peuple, ce résidu, quelques-uns qui sont revenus de la captivité, de ce jugement que Dieu a donné à ce peuple parce qu'ils avaient servi les idoles, parce qu'ils étaient infidèles à Dieu. Alors il les a mis en captivité, mais il leur avait encore donné, il les avait encore réveillés, il les avait ramenés dans son pays. Et ils ont pu monter l'autel pour que l'adoration, pour que les offrandes puissent être offertes à Dieu. Alors, mais c'était un autel au milieu d'une ruine. Parce que toute la ville a été détruite, les murs étaient détruits, les portes étaient brûlées. Mais Dieu encore, il leur avait donné encore de la force. Ils ont bâti le temple. Mais il fallait aussi encore, là, le message de Agé et de Zacharie pour leur donner. Vous courez plutôt pour vos maisons au lieu que la maison de Dieu est en ruine. Et alors, après ces messages de ces deux prophètes, ils ont continué à monter, à construire l'autel à sa place. L'autel et le temple à sa place. Mais là, il y avait le temple et l'autel au milieu d'un pays en ruine, au milieu d'une ville en ruine. Et le pays était, dans ce pays ne vivaient plus seulement les Juifs. Dans ce pays vivait un mélange de peuples. Ils avaient apporté des gens qui servaient les idoles. Et on leur a un peu appris comment servir Dieu, un peu à côté. Et dans quel temps nous vivons maintenant? Nous vivons dans un temps où tout est mélangé. Nous vivons dans un temps où on a un peu de christianisme, mais surtout on vit sa propre vie. On ne sert plus à Dieu. Et c'est dans ce monde que nous vivons. Et dans ce monde, Dieu a encore permis qu'il y a l'autel, qu'il y a le temple, qu'il y a l'adoration et qu'il nous a montré qu'il veut vivre au milieu, là, dans une maison, dans la maison de Dieu que nous sommes. Mais si nous vivons dans ce pays et nous nous sommes mélangés, avec ce peuple, avec tous ceux qui vivent dans ce pays, avec ces religions qui sont très libérales, qui disent, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'on est comme témoignage? On n'est pas du tout un témoignage. Comme Néhémie a dit, là, à la fin du deuxième chapitre, hein, où il a dit, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. L'opprobre. Qu'est-ce qu'il dit le monde? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez servir Dieu? Mais ce n'est pas possible. Faites comme nous, faites tout ce que vous pouvez, vous réunir comme vous voulez. Vous pouvez adorer qui que vous voulez. Faites votre propre loi. Mais non, Dieu, il habite au milieu de son peuple. Il veut avoir que ça soit saint, comme nous avons lu en Ézéchiel. Il veut avoir une distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Alors, il veut habiter au milieu d'un peuple saint. Soyez saint parce que moi je suis saint, il a dit. Et comment il peut vivre dans un monde où chacun fait son propre Dieu? Et si nous ne séparons pas vers lui, là où il habite, là où il y a l'autel, là où il y a ce temple de Dieu, sa maison où il habite. Alors, on fait comme son peuple, comme ce peuple, ces soi-disant chrétiens autour de nous. Mais si nous montrons, voulons être un bon témoignage, c'est-à-dire nous sommes réunis autour de lui, nous gardons ses commandements, nous voulons vivre selon sa parole. Et c'est ça, ce mur qui va se construire. Et chacun, il le fait devant, on voit ici, les uns le font devant leur maison, les autres, ils aident les autres à construire ce mur. Alors, que nous prenons cette parole pour nous, et ils disent, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Est-ce que nous écoutons cet appel? Levons-nous et bâtissons. Est-ce que nous voyons cette misère dans laquelle nous sommes? Est-ce que nous sommes dans le deuil de la situation de l'Église? Pensons à toutes à l'Église, pas seulement à tous ces quelques-uns avec lesquels nous nous réunissons. Pensons à l'état de l'Église. Et si nous montrons qu'il y a vraiment une assemblée que Dieu a choisi, que le Seigneur a acquis à si grand prix, comme nous nous sommes rappelés ce matin, qu'il veut pour lui, qu'elle montre ses caractères à lui, qu'elle montre ses gloires à lui. C'est ce manque, si nous sommes séparés de ce monde, si nous sommes saints comme lui, il est saint. Et cette sainteté, c'est seulement peut être fait dans la séparation. La séparation, c'est rien de négatif. La séparation, c'est positif. La séparation, c'est vers le Seigneur. Et ainsi, si nous faisons ainsi, nous pouvons être un témoignage pour lui.
Nous avons déjà évoqué le verset 5. Les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur Seigneur. Il peut y avoir l'indifférence. Je ne me sens pas concerné, mais il peut y avoir de la rébellion. Ils ne voulurent pas. Il n'est pas dit ils ne plièrent pas leur cou au service des chefs, au service des juifs, non, au service du Seigneur, de leur Seigneur. C'est pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit-là, de ne pas vouloir le faire parce que l'assemblée n'en vaut pas la peine, ou peut-être parce que j'ai d'autres choses à faire plus importantes pour moi? J'aimerais lire un passage dans Ézéchiel 13. Ézéchiel 13 au verset 5. Vous n'êtes point monté aux brèches et vous n'avez pas fermé l'enceinte pour la maison d'Israël afin de tenir ferme dans la bataille au jour de l'Éternel. Voilà, parce que il y a une bataille, il y a un combat. Satan est là pour combattre contre les croyants. Et donc cette muraille est importante. Et s'il n'y a pas personne pour les brèches, eh bien, la bataille, nous risquons de la perdre. Lisons juste quelques chapitres plus loin, au chapitre 22. Chapitre 22 au verset 30. Et j'ai cherché parmi un homme qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise, que je ne le détruisisse pas, mais je n'en ai point trouvé. Est-ce que le Seigneur doit dire cela? Peut-être pour mon assemblée locale. Je n'en ai point trouvé. Il y a encore autre chose, et je reviens, excusez, de revenir au chapitre 13. On a parlé de mal construire. Revenons dans Ézéchiel 13, au verset, fin du verset 10. Si celui-ci bâtit un mur, ceux-là l'enduisent de mauvais mortiers. Dis à ceux qui enduisent le mur de mauvais mortiers qu'il s'écroulera. On peut peut-être avoir plein d'énergie pour l'assemblée, mais c'est parce que le Seigneur nous demande. Et cela rejoint ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 3, que nous pouvons bâtir avec de mauvaises choses. En Corinthiens 3 nous dit que nous sommes tous collaborateurs de Christ et chacun recevra sa propre récompense. Mais alors au verset, fin du verset 10, que chacun considère comment il édifie dessus. Verset 12, or si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste. Voilà, on peut construire de la bonne manière avec le Seigneur, comme on peut aussi avoir de l'activité ou de l'activisme, mais ce n'est pas comme le Seigneur nous le demande. Que le Seigneur nous donne à tous ainsi de pouvoir combattre avec l'Assemblée, de combattre pour l'Assemblée. Et en effet, combien cela est important aussi, le travail des sœurs. Si vous n'avez pas un service actif, combien votre service est important? Comment? Principalement, pas uniquement, mais principalement, par la prière. Est-ce que pendant que les frères parlent ici, est-ce que vous priez dans votre cœur pour que Dieu dirige les pensées de chacun? La force d'une assemblée, c'est aussi par les prières des sœurs. Et combien votre rôle est important. Ne le méprisez pas. Et même si peut-être parfois nous, en tant que frères, on nous met peut-être plus nous en évidence, mais combien votre service est important. Et c'est un service que on peut faire couché dans son lit. Et pour les personnes âgées qui ne peuvent plus venir aux réunions, qui se demandent « Mais qu'est-ce que je fais encore sur terre? Je suis si âgé, j'ai des souffrances. » Mais qu'elle puisse prier pour l'Assemblée. Combien ces prières sont importantes. Cela fait partie de ces murailles qu'il faut construire, de ces brèches. Vous pouvez voir aussi, vous avez souvent une sensibilité plus grande que les hommes de voir ce qui ne va pas dans l'Assemblée, où il y a des choses peut-être dès le départ qui ne vont pas. Priez pour cela. Combien cela est important. Combien les frères, combien l'Assemblée ont besoin des prières des sœurs. Et pour cela aussi, vous aurez votre récompense.
Dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses à en retirer. On a la succession des portes qui sont évoquées. Alors on a dit que certaines étaient rebâties, certaines étaient réparées, certaines étaient à la fois rebâties et réparées. Et il y a le nom de chacune de ces portes. On a commencé à évoquer la porte des brebis avec l'adoration, la porte des poissons. Et chacun des noms de ces portes évoque quelque chose de spirituel et qui nous fait réfléchir. Et on voit le Nouveau Testament qui peut éclairer la signification du nom de certaines de ces portes. Donc il y a la signification des portes et du nom de ces portes qui nous parlent. Et il y a aussi donc toutes ces personnes qui sont engagées dans le travail, on en a déjà parlé. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que dans la façon de travailler, il y a différentes façons de faire. Il y en a qui travaillent à plusieurs, ensemble, il y en a qui travaillent seuls. Et peut-être qu'il y a certainement même différentes formes de services. Il y a des services qui sont faits seuls, d'autres à plusieurs. Et peut-être qu'il y a aussi, si je peux dire ça comme ça, des dangers en rapport avec chacun des types de services. Si on est seul, peut-être qu'on aurait tendance à être trop indépendant. Après, si on travaille à plusieurs, le risque, c'est peut-être de se laisser aller par le groupe. Mais il y a besoin d'exercice spirituel dans chacun des cas. Donc, il y en avait qui travaillaient seuls, il y en avait qui travaillaient à plusieurs. On voit aussi quelque chose qui est touchant. Il y avait différents métiers qui étaient impliqués. Par exemple, on voit, verset 8, il est question des orfèvres, des parfumeurs aussi, au verset 8. On pourrait se dire, ben, peut-être que ces personnes-là, avec des métiers délicats, précis, peut-être qu'elles n'étaient pas très à l'aise dans la maçonnerie, et pourtant c'était des personnes qui se sont engagées quand même dans le travail de reconstruction de la muraille. Et donc on voit différentes personnes avec des qualités, et on peut certainement l'appliquer au niveau spirituel, qui sont engagées et qui apportent ce que le Seigneur leur a donné et qui le mettent en activité pour la construction de la muraille. Et il y a aussi une chose, on a fait allusion au verset 12 à Shallum qui a agi, qui a réparé, et il est dit à la fin, lui et ses filles. Et il me semble que c'est le seul verset dans le chapitre qui fait allusion à quelqu'un qui travaille avec ses enfants. Et il y en a, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Et c'est touchant, il me semble, de voir quelqu'un qui a travaillé avec ses enfants, et visiblement il n'y avait qu'une famille qui l'a fait, et c'était des filles, peut-être là aussi, naturellement pas leur qualité de faire de la maçonnerie, mais c'était des filles qui se sont engagées. Et il me semble que c'est un encouragement pour ceux et celles parmi les jeunes qui sont peut-être seuls dans leur assemblée locale. Vous n'avez pas d'autres jeunes avec vous dans l'assemblée locale, vous êtes dans une petite assemblée. Eh bien, que ce verset-là vous encourage. Il y avait peut-être, je ne veux pas être affirmatif, mais peut-être que dans ce travail énorme de reconstruction de la muraille, il y avait peut-être que ces filles, alors je ne sais pas quel âge elles avaient, mais il n'y avait que ces filles qui étaient engagées comme jeunes ou dans le cadre d'une famille. Eh bien, peut-être que dans certaines assemblées, il n'y a qu'une famille avec des enfants. Et peut-être que c'est exerçant pour les parents, pour les enfants, on sent les risques. Eh bien, que ce verset nous encourage que même si vous êtes seul dans votre assemblée locale, persévérez et contribuez.
Et sous un autre angle aussi, en termes d'encouragement, pour les plus jeunes. Quand on lit ces chapitres, on a l'impression que c'est un gros chantier. Oui, c'est un gros chantier dans un sens. Mais en même temps, si nous allons à l'arrière de nos Bibles, où nous avons des cartes, il y a un plan de Jérusalem. Et alors, je voudrais juste m'arrêter à un détail sur ce plan. Sous le titre, il y a l'échelle du plan. Et si on rapporte l'échelle à la dimension de Jérusalem dessinée, on voit que c'était une ville qui faisait au maximum 1 km sur sa plus grande longueur et 700 mètres dans la largeur. Je vais un petit peu regarder sur une carte à quoi ça pourrait correspondre de familier, qui nous est familier, bon, pour nous en Alsace. Peut-être certains, ça ne dira pas grand-chose. Mais j'ai constaté que ça collait à peu près aux dimensions de là où habitaient nos amis Streicher, Berkheim, Ceux qui connaissent, c'est une vieille petite ville alsacienne, entourée de murailles. On peut faire le tour de la ville sur les vieilles murailles. Et je trouve ça très parlant du chantier qu'on a. Et si on s'imagine cette muraille, cette petite ville sur ces murailles, on a quelque chose qui est à notre échelle. Ce n'est pas un chantier d'une ville comme nous les connaissons aujourd'hui. Une ville comme Strasbourg, une ville comme Lyon, comme Paris, c'est des choses énormes. Et on se dit là, mais ça nous dépasse, c'est quelque chose qui nous passe complètement par-dessus la tête, c'est hors de notre portée. Non, reprenons l'échelle de Jérusalem, c'est cette échelle-là, le chantier que le Seigneur met devant nous aujourd'hui. C'est à échelle de ce que nous pouvons faire. Un bout de muraille, une personne, un groupe de personnes, une famille, un autre bout de muraille, une porte. Voilà, ce sont des chantiers qui sont à notre échelle. Et c'est qui donne les forces, c'est qui donne les discernements de ce qu'il faut faire, par où il faut commencer, comment il faut s'y prendre. C'est le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui nous écrase, qui nous dépasse. C'est ça ce que je veux dire. On a là cette série de cette liste de personnes, cette liste de tronçons de cette ville. C'est quelque chose qui est à notre échelle, ce n'est pas quelque chose qui nous écrase. Et c'est quelque chose d'encourageant de reprendre cette mesure-là. Oui, le Seigneur ne nous demande pas des choses qui sont hors de notre portée. Il ne nous demande pas des choses, il ne demande pas que nous soyons des surhommes. Il nous connaît dans notre faiblesse, dans notre humanité, et il nous demande quelque chose à notre échelle.